chocolat au lait.
Notre invité du jour, c'est Pauline Claes. Salut Pauline.
Bonjour.
Tu es avec nous parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une tapisserie fort connue du Moyen-Âge, la Dame à la Licorne. Tu es doctorante, tu fais des recherches sur cette tapisserie, mais tu n'es pas que doctorante. Est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditeurs, s'il te plaît?
Alors oui, on va commencer par le fait que je suis doctorante quand même.
Oui, voilà, c'est quand même c'est un point important et aujourd'hui...
Alors, donc je suis dans ma deuxième année de thèse. Donc à Archéosciences Bordeaux, mais aussi au LRMH, qui est le laboratoire des monuments historiques, de recherche des monuments historiques, qui se trouve à Champs-sur-Marne. Donc ma thèse, je l'ai commencée en 2021, je suis financée par le CNRS, donc je suis quand même rattachée administrativement à Bordeaux-Montaigne. Quoi dire de plus? Mes directeurs de thèse, peut-être?
Pourquoi pas, oui, bien sûr, c'est important
donc,
de citer.
Mon premier directeur est Rémi Chapouly, qui est professeur à l'Université de Bordeaux-Montaigne.
Que l'on connaît à Radio Campus, puisqu'il est président de Radio Campus.
Il paraît, oui.
Ah, d'accord, je ne sais pas.
Je suis ma co-directrice Aurélie Mounier, donc qui est ingénieure de recherche et qui a passé son HDR là, il y a peu de temps à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Et aussi, donc, pour le LRMH, Mohamed Dallel, qui est ingénieur de recherche et responsable du pôle textile dans ce laboratoire.
Très bien, Aurélie Mounier, que tu as cité, qui t'accompagne dans ses recherches.
Oui.
Voilà, tu as une acolyte.
Au quotidien.
Au quotidien, donc voilà, vous voyez beaucoup.
Oui.
Archéosciences, c'est un laboratoire qui il se trouve où et en quoi il consiste?
Archéosciences, c'est un laboratoire qui est au bout du campus. Donc on est au niveau du Veracruz, pour ceux qui sont
juste
du
à côté,
coin.
Ouais.
Voilà, juste à côté. C'est un laboratoire de sciences archéologiques. Donc en fait, c'est des chercheurs, des doctorants, des post-docs qui vont travailler quotidiennement sur leurs sujets de recherche qui vont de la préhistoire au contemporain. On touche à tous les matériaux. Du coup, moi je travaille sur les tapisseries, mais j'ai des collègues qui travaillent sur des quartz ou alors sur des monnaies ou encore sur des céramiques aussi, beaucoup. Et voilà, après on a trois pôles qui définissent le laboratoire, trois axes de recherche.
Très bien, vous menez plein d'expériences et de recherches,
voilà,
sur tout.
C'est vraiment pluridisciplinaire.
Pluridisciplinaire, très bien, c'est ce qui marque ça. Et ton parcours universitaire avant d'être doctorante, tu as fait quoi comme licence et comme master?
Alors, j'ai fait une licence en chimie, parce que j'ai toujours été intéressée par la restauration, la conservation des œuvres d'art, mais j'étais beaucoup meilleure, on va dire, en sciences qu'en histoire de l'art, même si j'avais fait des options histoire de l'art et à plastique au lycée. Donc j'ai fait ma licence de chimie à Lens, dans le Nord-Pas-de-Calais, à l'université d'Artois. Et puis je suis venue faire le master d'archéométrie sur Bordeaux en sciences archéologiques. C'était pas il y a 4 ans, je crois.
D'accord.
Donc les 2 ans de master. Puis est arrivé le Covid. Donc j'ai pas eu la possibilité de faire une thèse tout de suite parce que manque de financement. Mais ensuite, j'ai utilisé cette année de pause Covid pour faire, on va dire, un autre master. Je vais améliorer, on va dire, ma formation en chimie. J'ai été prise à Sorbonne Université en deuxième année, enfin en master 2 directement, physique et théorique. C'était de l'analytique, surtout la chimie analytique.
D'accord. Et tu as parlé d'archéométrie, ça consiste en quoi exactement? On va vulgariser au maximum.
Ouais. Alors l'archéométrie, je crois que c'est comme ça que s'appelle le master, ou sciences archéologiques. Bon, en fait, parce que c'est ça.
D'accord, c'est juste ça, d'accord.
C'est l'intitulé du master, mais c'est aussi, on peut se définir comme archéomètre. Certains apprécient de faire de la sorte. En fait, c'est vraiment... est-ce que je vais bien le décrire? Je sais pas, j'ai pas envie de me faire taper sur les doigts.
Tu le décriras forcément bien, Pauline.
On va dire qu'on applique la science aux questions archéologiques et d'histoire pour en fait mieux comprendre un sujet, afin de voir les différentes facettes d'un même sujet, pour se poser les bonnes questions, pouvoir essayer d'y répondre correctement avec des outils, on va dire, scientifiques.
Très bien, c'est expliqué très clairement,
c'est clair,
simple.
Hein. Ah oui,
on a tout compris. Oui, il faut savoir que lundi, on n'est pas les plus malins à Radio Campus.
Surtout toi.
On n'est pas les plus éveillés, surtout.
Surtout toi.
Et donc, ces recherches t'ont amené, tu nous l'as dit, à la dame, à la licorne, parce que tu aimes les tapisseries, tu aimes le Moyen-Âge. Et c'est marrant de combiner voilà, justement la chimie avec l'histoire, de l'art. Et justement, la dame à la licorne, alors c'est une tapisserie que tout le monde a au moins croisé dans un livre d'histoire ou un peu partout. Comme on est à la radio, on va tenter quand même de la décrire visuellement. Est-ce que tu veux te prêter à cet exercice, Pauline ?
Alors, je peux essayer. Alors, il faut savoir que la tenture de la Dame à la Licorne, elle est composée de 6 tapisseries différentes qui font environ 4 mètres sur 3, chacune. Donc, c'est vraiment des très grosses pièces.
Elles sont grosses, ouais.
Alors, donc, il y en a 6, mais... Elles sont décrites comme représentant les 5 sens, donc l'ouïe, le toucher, la vue, le goût et l'odorat. Et il y aurait un 6e sens, une 6e tapisserie qu'on n'a pas su encore... il y a toujours un débat dessus, en fait, sur ce qu'elle représente, son iconographie. Et ce serait celui du cœur, un 6e sens qui serait au Moyen-Âge... Au Moyen-Âge, il y aurait un 6e sens, en tout cas.
D'accord, il y a plein de questions qui se
posent
là-dessus.
Il y a vraiment beaucoup de questions et c'est pas mon domaine d'expertise, donc je voudrais pas, avancer des théories qui ne sont pas. Ces tapisseries sont composées à chaque fois d'un lion, d'une licorne, qui entoure en fait une dame qui est très bien habillée. Des fois, elle est accompagnée d'une demoiselle ou d'une servante. Qui va lui tendre quelque chose ou jouer de la musique avec elle. C'est une tapisserie qu'on appelle mille fleurs, parce qu'en fait elle est composée d'un fond rouge avec énormément de végétaux tout autour et d'animaux. Des animaux de toutes sortes. Il va y avoir des chiens, mais il y a des singes aussi, des fois. Il y a beaucoup de lapins. Donc il y a des recherches qui ont été faites plus particulièrement sur l'iconographie qui sont disponibles. Et donc on a un fond rouge et les dames et la licorne et le lion se trouvent sur une espèce d'île bleue, un îlot bleu sur lequel il y a aussi énormément de fleurs et d'animaux. Voilà.
Merci Pauline, là je vois complètement la tapisserie, super. Oh ouais, mais on est à la radio, c'est pas facile hein, comme exercice. Et cette tapisserie, on a pu la dater précisément ?
Alors pas vraiment, on manque d'informations un peu sur l'endroit où elle a été fabriquée. Certains experts la considèrent qu'elle aurait été tissée aux alentours du 16e siècle, ou 1500.
D'accord.
Mais on a vraiment très peu d'informations là-dessus.
Ah, c'est marrant, je pensais que justement avec l'avancée de la science, on avait les outils pour maintenant dater précisément des œuvres du Moyen-Âge, pourquoi pas. Mais en fait, non, il y a encore pas mal de choses.
Alors la localisation, c'est difficile, enfin juste avec une datation en tout cas. Faut faire des recherches, faut avoir aussi des moyens financiers pour pouvoir faire recherches. Je pense pas qu'il y ait de datation qui ait été demandée de faire, parce qu'on fait des datations, c'est possible.
Oui.
Enfin, pas moi personnellement, mais c'est possible de dater des fibres des textiles.
Ah voilà.
Donc peut-être que ça pourrait être demandé et ce sera fait à ce moment-là, mais c'est vrai que pour l'instant c'était plus par l'iconographie que ça s'est fait, les recherches bibliographiques, plutôt que par une datation scientifique. Quoi.
C'était pas l'urgent de chercher une date, un endroit.
Ou non, je crois pas. Non. Faut voir ça avec la conservatrice.
cette tenture, elle est exposée où ?
Elle est exposée au musée Cluny à Paris, qui vient de réouvrir puisqu'elle était en travaux pendant quelques années, et donc elle a une salle à elle toute seule, très jolie. Donc on peut s'asseoir sur un banc et observer ces 6 tentures qui nous entourent. C'est très sympa.
Et je crois que cette tapisserie, elle voyage de temps en temps, et quand il y a des expositions sur justement sur elle, il me semble qu'il y a 2 ans, il y a 2 ans, elle était à Toulouse.
Oui, c'était un prêt exceptionnel. En fait, c'est vrai que comme c'est une œuvre considérée comme majestueuse et précieuse, elle ne bouge pas beaucoup. Donc là, c'était un prêt parce que aussi le musée de Cluny était fermé. Donc elle était au musée des abattoirs à Toulouse de octobre 2021 à janvier 2022, je crois.
C'est ça.
Quelque chose comme ça. Et donc nous, on a pu en profiter pour descendre avec nos appareils et faire des analyses à ce moment-là, puisque ça fait beaucoup moins loin que de monter à Paris.
Et oui, du coup, avec tes recherches, tu es obligé de tout le temps aller à Paris en fait, pour aller l'étudier.
tout le temps. On ne peut pas monter tout le temps, souvent, mais j'ai eu beaucoup de campagnes d'analyse. Donc, c'est-à-dire que là, on va prendre tous nos appareils et on va y aller pendant 2-3 jours ou des fois qu'une seule journée, parce que je sais qu'au musée de Cluny, on peut travailler seulement quand le musée est fermé au public. Ils ne vont pas fermer la salle pour nous, ce qui est normal, puisque c'est quand même une œuvre qui est attrayante. Donc, et puis on ne peut pas travailler avec le public. C'est un peu compliqué. Et nos appareils prennent de la place, on doit éteindre la lumière. Il y a des câbles électriques partout, on laisse nos affaires comme on peut.
Le public qui veut voir le truc, ils sont là, il y a des gens qui sont en train de l'observer, c'est très bizarre.
C'est ça. Après, ils sont très intéressés. Enfin, ça nous arrivait une fois de faire ça avec le public. Ah. Et en fait, ils sont intéressés, donc ils nous posent des questions. Et
ah, ils sont curieux.
Nous aussi, on fait un peu des bêtises dans les analyses qu'on fait, donc on n'est pas très efficace en fait aussi.
Et alors du coup, Pauline, avec Aurélie Mounier, qu'est-ce que vous recherchez sur la tapisserie ?
Alors, sur la tapisserie, il faut savoir que c'est une tapisserie qui a été restaurée de nombreuses fois. En fait, elle a été découverte en 1842 par Prosper Mérimée et elle a été achetée par le musée Cluny seulement en 1881. Mais entre sa date de fabrication et la fin du 19e siècle, on a très peu d'informations en fait sur cette tapisserie. C'est comme si elle avait un peu disparu, un peu oublié.
D'accord.
Et donc, quand elle a été rachetée par le musée Cluny, il fallait s'en occuper parce qu'elle était extrêmement dégradée. Et donc, il y a eu, à partir de ce moment-là, plusieurs campagnes de restauration. Et puis, bah voilà, elle était exposée. Donc, même si on sait comment est-ce qu'à peu près elle a été exposée, il y a eu vraiment plusieurs campagnes. Et surtout... En fait, quand ils ont récupéré les tapisseries, tout le bas avait disparu. Ou alors avait été mangé par les rats, était complètement dégradé.
Ah oui, à ce point-là, d'accord.
Donc, il a fallu intervenir pour rendre cette tapisserie, on va dire, à peu près esthétique. Parce qu'on ne pouvait pas...
Pour l'exposer ensuite.
Exposer comme ça, voilà. Donc, il y a eu une première restauration en, je sais pas, 1890, où il a été demandé à Charles Lamère de faire, qui était peintre. Donc il a peint sur des bandes de reps, c'est des bandes de une espèce de scotch, un peu un papier scotch, sur lesquels il a peint un motif. Alors après, est-ce qu'il avait des bouts à l'époque pour essayer de deviner à quoi ressemblait le bas des tapisseries, on ne sait pas trop. Mais bon, ces espèces de bandes de papier sont restées quelques années en bas des tapisseries, mais le conservateur de l'époque n'a pas voulu que ça reste comme ça, donc a fait intervenir Jules-André Lavaux, qui était donc un lissier qui travaillait à la manufacture des Gobelins, mais qui est intervenu pour le musée Cluny en tant que lissier privé. Et en fait, il est allé chercher dans les magasins de la manufacture des Gobelins. C'est un endroit où on mettait les laines en fait qu'on ne voulait plus ou qui n'avaient pas été utilisées, qui sont déjà teintes.
D'accord.
Il est allé chercher des couleurs différentes de ce qu'il pouvait aller pour faire en fait ce retissage de la tapisserie. Les 6 tapisseries ont en fait une bande qui a été retissée à la fin du 19e et qui aujourd'hui se voit beaucoup par rapport au reste en fait de la tapisserie. Et donc il était question, la question que la conservatrice se posait, c'est pourquoi est-ce que cette bande en bas s'est dégradée aussi fortement ? Est-ce que parce qu'on est à la fin du 19e et que la chimie commence à arriver, des colorants synthétiques auraient été utilisés et ils étaient connus pour moins tenir,
d'accord,
contrairement à ceux qu'on utilise aujourd'hui, parce que c'est le début de la chimie, donc il y a des tests qui sont faits. Ou est-ce que c'est des colorants naturels et qu'il faut... Enfin, il faut trouver une explication, en fait. Pourquoi est-ce que cette bande est si dégradée ? Et donc, nous, on est parti sur ce postulat-là, s'intéresser à cette partie-là de la tapisserie. Mais quand on a découvert qu'il y avait autant de restaurations différentes, y en a celle d'après, elle date pendant la Seconde Guerre mondiale, on est en 1942. Et donc là, on sait qu'il y a des colorants synthétiques qui ont été forcément utilisés, parce que c'est une époque où on utilisait les colorants synthétiques pour les restaurations. Et donc, l'idée, c'est de développer nos méthodologies d'analyse, parce que nous, on fait des analyses sans contact, sans prélever de bout de laine ou de textile sur l'œuvre, pour essayer d'identifier les matériaux de la tapisserie. Donc, c'est-à-dire les colorants, mais pour qu'un colorant tienne sur un textile, il faut aussi qu'on utilise un mordant. C'est un sel métallique.
D'accord.
Ça va être de la lin, ça peut être un sel de fer, un sel d'étain, souvent plus de la lin. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'avec nos appareils, on arrive à identifier ça. Enfin, ces matériaux de la tapisserie, donc laine, soie, les différents colorants dans toutes les couleurs, et pourquoi pas les mordants.
Et vos appareils, ils ressemblent à quoi alors ? Si c'est sans contact.
Si c'est sans contact. Alors, l'appareil principal qu'on utilise, c'est la caméra hyperspectrale. Donc en fait, on dirait une énorme caméra, ou une petite, parce que celle qui travaille dans, dans les ondes du visible, donc de 400 à 800 nanomètres, on est sur une caméra qui est comme une caméra, on va dire, qu'on porte à l'épaule.
D'accord.
Vrai. Et en fait, cette caméra, elle va scanner une image qui est éclairée avec des lampes halogènes. Et sur cette image, elle va en fait, pixel par pixel, nous ressortir un spectre de réflectance, c'est-à-dire que la lumière qui est envoyée va nous renvoyer une information de la tapisserie. Et cette information est caractéristique du matériau qui est étudié. Donc on va D'accord. avoir un signal particulier pour un matériau, une couleur particulière. Donc après, nous, notre travail, c'est qu'une fois qu'on a cette information, c'est de savoir quel est ce signal pour identifier le matériau.
Et le sans-contact, c'est pour justement pas endommager la tapisserie, mais est-ce que ça vous rendrait service de prélever ne serait-ce qu'une microfibre?
Oui, si seulement. Parce que les techniques qui sont invasives, donc comme la chromatographie par exemple, ça, on est sûr qu'on aurait les réponses tout de suite.
D'accord.
Enfin, plus facilement, disons.
Et c'est quoi? C'est les conservateurs qui ne vous laissent pas, justement, c'est interdit de prélever ne serait-ce qu'une particule?
Nous, dans notre recherche actuelle, on essaie de développer la méthodologie sans contact. Donc on ne va pas forcément essayer d'accord. d'aller regarder...
C'est aussi voilà. pour faire travailler la technologie de
c'est
ce côté-là.
Très bien. Développer un peu le traitement de données qu'il y a derrière. Donc en fait, je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur.
Ouais, voilà. C'est évolutif. C'est toujours avec les technologies modernes que votre travail progresse, en fait, au fur et à mesure.
Oui, on peut dire ça. Mmh. Et puis oui, c'est aussi développer un outil pour les restaurateurs et restauratrices qui pourraient, peut-être d'un seul coup d'œil, faire une cartographie en fait des œuvres et avoir d'autres informations directement.
Très bien, donc vous prenez une fameuse cartographie de la tapisserie et ensuite tu travailles sur ton ordinateur, Pauline, et tu fais quoi sur ton ordinateur?
Je passe mon temps sur Excel.
Ah, c'est beaucoup moins sexy tout de suite.
Non, je suis désolée, hein, mais c'est la vérité.
Après avoir fait, mais alors ouais. du coup sur Excel, ça consiste, enfin, qu'est-ce que tu fais?
Et eh ben en fait, je vais refaire sur Excel ou sur R. J'essaye de mettre sur R aussi. C'est un peu compliqué, mais
sur
R Studio, c'est ça permet de faire de la programmation en open source en fait.
D'accord. Oui. Tout simplement. D'accord.
Voilà. Et du coup, je vais essayer de refaire les graphiques pour voir sur ces spectres d'absorption. En fait, on va avoir des bandes d'absorption. Et c'est ces bandes caractéristiques qui se trouvent à certaines longueurs d'onde qui vont me donner des informations sur les matériaux. Donc je suis obligée de comparer avec ce que je trouve dans la littérature, donc je fais aussi beaucoup de biblio. Mais aussi, on est obligé de faire ce qu'on appelle une base de données, donc une base de référence. Et pour ça, donc il y a un travail de thèse qui a déjà été fait sur les tapisseries d'Aubusson. Donc on a les tapisseries du XVIIe siècle, c'est Hortense de la Codre qui l'a fait ici à Archéosciences Bordeaux, qui a soutenu le 20 février dernier. Et donc elle, dans le cadre de sa thèse, comme c'était XVIIe siècle, elle a regroupé énormément de recettes de la fin XVIIe et XVIIIe siècle. On a travaillé avec une teinturière, Charlotte Marabert, qui travaille à Bruxelles, et qui en fait ont recréé les recettes d'après les textes anciens. Et donc du coup, nous on a tout un nuancier, j'ai déjà une grosse base de données sur on va dire les colorants qui auraient pu être utilisés à l'époque médiévale. Il faut faire attention aussi entre les différentes époques sur quels colorants auraient pu être utilisés ou non. Donc j'utilise pas mal de ces données-là. Et moi, il a fallu que je fasse aussi un nuancier de colorants synthétiques de la fin du 19e.
Ah oui, forcément. Okay. C'est là la difficulté avec cette tapisserie, en fait. C'est qu'il y a deux techniques qui se chevauchent.
C'est ça. Il y a toute une histoire des techniques, en fait, autour de cette tapisserie.
D'accord. Alors j'imagine que sur la confection des colorants au Moyen-Âge, il y avait déjà une base de données, il y avait déjà des recherches qui avaient été faites. On sait à peu près comment on faisait les colorants, ou il y a encore beaucoup de choses à découvrir là-dedans?
Alors le problème, c'est qu'au Moyen-Âge, donc bon, il y a quelques grands auteurs qui ont écrit, comme Michel Pastoureau par exemple, qui a beaucoup écrit sur les couleurs. Il y a aussi une thèse qui est sortie en 2021 sur les colorants médiévaux. Mais en soi, on n'a pas beaucoup d'informations en France parce qu'on n'écrivait pas beaucoup.
Ah, d'accord.
En fait, il faut aller chercher en Italie ou en Allemagne. Et puis c'était vraiment le métier de teinturier, ça se faisait aussi de bouche à oreille, il n'y avait pas forcément de, comme aujourd'hui dans nos formations, tout était écrit.
Bien sûr.
En fait, les recettes ont été mises sur papier à partir du moment où des scientifiques, je mets des guillemets, se sont intéressés à comment travailler les gens, avec l'encyclopédie notamment aussi. Ils sont allés dans les ateliers, ils sont allés voir ce que faisaient les artisans.
D'accord.
Et à ce moment-là, on retranscrit leurs gestes, comme ils pouvaient, parce qu'il y avait aussi un petit manque. Il n'y a pas toutes les informations qui sont là.
Les limitations de l'époque, quoi.
Voilà.
Depuis que tu as commencé tes recherches, donc il y a 2 ans, c'est ça? Est-ce que tu as fait des découvertes, des avancées que tu aimerais nous partager, ou il reste encore pas mal de... Enfin, pas mal, non, ça, on ne va pas partir là-dessus, mais voilà. Est-ce qu'il y a des découvertes qui ont été faites de ton côté?
Alors, on a pas mal avancé sur l'identification des colorants qui se trouvent dans la bande, justement, dont je vous parlais, restaurée en bas de la tapisserie, à la fin du 19e. Il y a un article qui devrait sortir, donc je ne peux pas trop divulguer les informations tout de suite, mais il y a encore énormément de choses à faire. Et j'espère qu'une année, ça ira encore.
D'accord. Et il y a, à part voilà, ces différentes périodes qui composent la confection de la tapisserie, est-ce que tu t'es heurté à des obstacles ou des choses auxquelles tu t'y attendais pas dans tes recherches?
Alors, étant donné que c'est une tapisserie qui est très connue, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrits.
Donc, ah, tant mieux.
Voilà. Tant mieux, mais en même temps, il faut trier les informations.
Et la documentation. Ouais.
Enfin, ça, voilà, il y a beaucoup de documentation. Donc, ça, il a fallu faire le tri, il a fallu beaucoup lire au début, forcément, sur l'histoire de la tapisserie, s'imprégner un peu des différentes époques. Et justement, le fait qu'il y ait différentes époques et le début de la chimie et ces colorants synthétiques qui arrivent, les chimistes ont décidé de faire beaucoup de choses, en fait. Ils ont fait beaucoup de tests, donc il y a énormément de noms de colorants synthétiques qui existent. Et il a fallu faire un tri, faire un choix pour savoir lesquels on allait étudier, parce que c'est pas possible de tous les étudier, sachant que d'une année sur l'autre ou d'un recueil à l'autre, c'est pas forcément les mêmes noms qui sont des fois utilisés pour parler de la même molécule, on va dire.
D'accord. Mais alors, finalement, la dame à la licorne, pourquoi elle est si importante, cette tapisserie, plus qu'une autre?
Alors, je pense qu'il y a 2 choses principales. L'une, c'est que au niveau de la technique de tissage, elle est vraiment très intéressante. Elle est très précise. Par exemple, au revers de la tête, on peut la regarder des deux côtés. C'est-à-dire que si on enlève la doublure, c'est une tapisserie dont les fils... Ouais, les lissiers ont pris le soin de rentrer chaque fil. Ils ne les ont pas juste arrêtés et coupés comme on fait habituellement dans les tapisseries. Tout a été rentré, ce qui fait que c'est une tapisserie qu'on pourrait regarder des deux côtés. Donc ça, c'est une chose. Il y a eu un gros travail dessus. Ensuite, on est quand même sur 6 pièces. Donc, bon, c'est vrai qu'on c'est difficile de savoir comment est-ce qu'il travaillait à l'époque, mais c'est sûrement une personne importante qui l'a commandé. Ensuite, elle nous est, même si elle a eu beaucoup de restauration, elle est encore en très bon état aujourd'hui, pour son âge.
Les restaurations n'ont pas détérioré le matériel de base?
Normalement, non. À part celle dont je vous parle en bas, mais voilà. Sinon, aujourd'hui, quand on la regarde, on ne dirait pas qu'elle est neuve. Mais ce n'est pas trop visible et les restaurations actuelles font en sorte que le dessin soit toujours lisible, en fait. Donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Et puis, y a beaucoup de mystères qui planent autour de cette tapisserie. On ne sait pas qui est représenté. Le commanditaire en a une idée, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle a été faite, dans quelles circonstances. Et voilà. C'est tout ça, en fait, je pense, qui fait qu'on parle beaucoup d'elle.
C'est le mystère.
C'est ça, voilà. C'est le mystère.
Puis c'est une œuvre qui est assez imposante aussi. Tu l'as dit avec les dimensions, le fait qu'il y ait 6 pièces qui la composent. Donc on peut toujours aller la voir à Cluny maintenant. Maintenant
que
c'est rouvert, on peut y aller. Donc Cluny, c'est quoi? C'est en haut du boulevard Saint-Michel, c'est ça?
Par là. Oui, oui.
D'accord, très bien. Très beau quartier de Paris. Super.
Joli.
Pauline, et du coup, là, pour la suite imminente de tes recherches, ça donne quoi?
Alors là, je suis en train de dépouiller parce qu'on a fait beaucoup de campagnes d'analyse, donc il y a beaucoup d'informations, il faut que je m'imprègne de tout ça, que je les regarde et que je vois comment les faire parler.
D'accord.
En fait. Et donc il va falloir que je fasse du traitement de données peut-être un peu plus poussé, Et il va falloir aussi que je refasse un nuancier, mais pour la période de la Seconde Guerre mondiale. Donc il va falloir que je me replonge dans la bibliographie, que je rediscute avec la teinturière avec qui on travaille, donc Charlotte Marimbert, et qu'on refasse ces recettes à nouveau, et que je les rentre dans la base de données. Et puis après, recomparer au spectre, etc. Et toute une méthodologie, en fait, encore à mettre en place pour pouvoir étudier la tapisserie et peut-être en sortir des réponses.
Des réponses, en tout cas, c'est un travail très, très minutieux. Mmh. Hein, on voit ça. Et puis, on voit le côté bien scientifique avec la chimie que tu aimes tant. Pauline Kless, merci beaucoup d'être venue à Café Campus.
Merci, merci à vous.
Nous parler de la Dame à la Licorne. Bon courage pour ta thèse, pour tes recherches et ce qui reste encore à faire. Et puis, à bientôt sur les ondes.